Je voudrais saluer aussi Thibault Olivier, ceux qui ne déjeunent pas dans la salle à manger ne le connaissent pas, mais c'est le cuisinier du banquet qui fait une cuisine exquise, voilà, vraiment délicieuse. Après, éventuellement, je pourrais remercier Dominique Bondu, Colette Olive, mais enfin, c'est d'abord Thibault Olivier. Juste une petite phrase pour situer un petit peu mon propos. Je la tire une remarque plutôt qu'une phrase. Je la tire d'un livre assez récent de Boris Cyrulnik qui s'appelle « De chair et d'âme » où il montre que bien des gens n'entendent pas la musique, sont à musique, comme il dit, comme d'autres sont dyslexiques, ont des troubles dans la lecture. Alors il raconte une anecdote qui concerne Freud qui est au concert, qui écoute Don Juan et il parle à sa voisine, on lui demande si ce terme. Non, mais la musique me dérange pas. Mais il me semble qu'une affection du même sorte que la musique atteint de nombreux lecteurs de romans et qu'ils n'en souffrent pas, de même que Freud ne souffrait pas de son amusie. Seulement, il se trouve que nous sommes très nombreux à souffrir pour nous-mêmes de cette affection qui les atteint. Nous souffrons de leur amusie littéraire, ce que j'aimerais appeler leur aprosie. La passion pour la littérature. Comment aurait-elle été éveillée en nous sans cette effervescence, cet éblouissement qui nous ont agités et stupéfiés? Je reprends ce mot de stupéfaction que j'ai entendu avec bonheur ce matin. Oui, cette effervescence et cet éblouissement qui nous ont agités et stupéfiés à la lecture de quelques très rares œuvres à l'âge où nous nous sommes formés. Pour moi, au château d'Argol, à l'adolescence, un peu plus tard, La Recherche, et puis dans l'été des 24 ans, en 1973, L'Herbe, La Route des Flandres, Histoire. La beauté transporte et sidère tout en même temps. Elle exerce sur vous ses pouvoirs despotiques. Dans le moment même où vous sentez en vous une force neuve, l'octroi gracieux, sans contrepartie, entièrement généreux, d'une liberté, pas même rêvée. Vous lisez dans la ferveur. À peine cherchez-vous alors à comprendre ce qui vous arrive là, vous savez seulement, et vous vous le dites, que quelque chose vient de vous être révélé et que la littérature, c'est ça. Parce qu'elle était une expérience à part entière, ma première lecture de Claude Simon avait des effets qui ne se présentaient pas avec clarté. Et c'est bien après le temps de la lecture que j'ai pu chercher à nommer ce qui m'avait saisi et transporté. Mon propos, il est donc rétrospectif. Et pourtant, par un curieux effet de l'œuvre révélatrice, il me semblait alors que celle de Simon venait confirmer ce que je savais confusément, ce que je désirais. Il me semblait qu'elle venait ainsi à poser le sceau de la vérité sur mes aspirations littéraires, en sorte qu'elle était comme le garant de la légitimité de mes projets. Je veux dire que les vraies révélations ont ceci d'étrange qu'en en faisant l'expérience, vous êtes convaincu tout à la fois de découvrir des mondes entièrement inconnus de vous, et pourtant de reconnaître, et comme de retrouver ce qui vous est le plus proche et qui vous est propre. J'ai découvert et aimé chez Simon tant de choses que je croyais tout en même temps reconnaître comme si je les avais de toujours connues. Tout en lisant les poètes, je n'écrivais pas de poèmes. J'aimais la prose et j'étais personnellement blessé de l'avoir humilié dans tant de romans par son manque de tenue, son manque d'allure, son relâchement. Et si, comme l'écrit Breton, la littérature n'est pas faite pour agrémenter si peu que ce soit les loisirs d'autrui, par quel outrageant mépris de soi-même le roman pouvait-il reléguer son lecteur aux commodités du divertissement? Il me semble, écrit Flaubert à Tourguenieff, il me semble que la prose, avec une majuscule française, peut arriver à une beauté dont on n'a pas l'idée. Ne trouvez-vous pas que nos amis sont peu préoccupés de la beauté? Il n'y a pourtant que cela d'important. Je pensais, c'était pas le seul, que le roman, comme chacun des autres arts, devait être purgé de tous les éléments qui ne lui appartiennent pas spécifiquement. Eh bien, ces trois romans de Simon lus dans l'été prouvaient avec une radicalité qui n'était ni dans Argol, ni même dans la recherche, que l'art du roman peut être libéré du fardeau de la conduite d'une intrigue, que le mouvement dans le roman, ce qui pousse le lecteur à tourner les pages, peut être impulsé par autre chose que ce que Valérie appelait avec sa condescendance bien connue à l'égard du roman. Ce qui pousse le lecteur à tourner les pages peut être impulsé par autre chose que l'appel de la suite. Par autre chose donc que le récit. Et je vais me poser un certain nombre de choses que j'ai entendues hier et ce matin. Le roman pouvait être impulsé par l'énergie motrice de cette syntaxe impérieuse qui est évoquée dans l'herbe. S'il y avait une foule de scènes, et j'aimerais mieux employer ce mot de scène que le mot de récit, s'il y avait une foule de scènes dans chacun de ces romans, sans toujours comprendre comment elles étaient organisées, ni même chercher à le faire, j'étais avant tout sensible au renversement des priorités romanesques qui faisait reporter sur la syntaxe la charge de créer les effets d'attente, le suspens caractéristique du récit. J'aimais que l'attention du lecteur fût accaparée par les rebondissements d'une syntaxe en état de tension continue, comme si elle se tenait toujours là, mystérieuse et géniarde, quelque part dans la vaste maison délabrée, avec ses pièces maintenant à demi vides où flottaient non plus les senteurs des eaux de toilette des vieilles dames en visite, mais cette violente odeur de moisie, de cave, ou plutôt de caveau, comme si quelques cadavres de quelques bêtes mortes, quelques rats coincés sous une lame de parquet ou derrière une plinthe, n'en finissaient plus de pourrir, exhalant ces acres relents de plâtre effrité, de tristesse et de chair momifiée. Pas plus que ces multiples scènes ne s'organisaient en une intrigue qu'une conclusion serait venue boucler et résoudre, la phrase de Simon ne venait s'étrangler dans un point final, elle avançait, courait, proliférait, se développait en se gonflant, sans discontinuer, sous l'effet d'une germination incoercible. La beauté de ce mouvement, d'expansion continue, l'émotion qui vous enlevait alors, la beauté de ce mouvement d'expansion continue, l'émotion qui vous enlevait alors, je les associais de manière préférentielle à des images musicales, à la musique que j'écoutais à l'époque, les mélodies continues wagnériennes, comme aux phrases sans fin des symphonies mahlériennes, parce que je pensais que le roman, lui aussi, devait reprendre à la musique son bien. J'aimais ces pages pleines, saturées, qui remplissaient à ras-bord l'enceinte de leur marge afin qu'ils jouent pleinement et s'y multiplient ce que j'aimais appeler à l'époque les mouvements browniens du sens. J'aimais ces pages pleines, donc. Il me semblait que, en se libérant des plaisirs d'assouvissement de l'intrigue, en transférant à la syntaxe de la prose les pouvoirs du roman, le roman multipliait la richesse de ses ressources. Il vous ouvrait des espaces jamais vus, vous insufflait la même liberté et la même énergie qui l'animait. Et c'est pourquoi c'était un écrivain intercesseur. Le roman simonien vous communiquait le désir et la force d'écrire qu'il avait porté. Quand j'étais perdu dans une forêt de il et de elle difficilement identifiables ou dans les chevauchements chronologiques de scènes difficilement situables, j'aimais retrouver des moules rythmiques caractéristiques. Assis là, en demi-cercle, sur des brouettes ou des seaux, se racontant de leurs voix monocordes, plaintives et maladroites, leurs habituelles histoires de récoltes que le mauvais temps empêchait de rentrer, de prix du blé ou de la betterave. Ailleurs, comme la couleur même de la guerre, de la terre, s'emparant d'eux peu à peu, eux, leurs visages terreux, leurs loques terreuses, leurs yeux terreux aussi, de cette teinte sale, indistincte, qui semblait les assimiler déjà à cette argile, cette boue, cette poussière dont ils étaient sortis, et à laquelle, errant, hébété et triste, ils retournaient chaque jour un peu plus. Ailleurs, maintenant il était lancé, parlait sans s'arrêter, lentement, mais d'une façon continue, patiente, et semblait-il, comme pour lui-même, non pour eux, ses gros yeux fixés sur le vide, droit devant lui, emplis de cette même expression à la fois étonnée, grave et admirative. Et encore, car peut-être ne parlait-il pas, n'avait-il même pas besoin de parler, immobile, paisible et taciturne à côté de cette flamme, immobile elle aussi, et non pas deux voix alternant, mais peut-être une seule, ou peut-être aucune, peut-être le silence seulement rempli par cette trépidation monotone, ténue, qui, de la bouilloire, semblait se communiquer à la table, au sol, et lui et moi, assis dans ces bizarres ténèbres diurnes, au sein de l'aveuglant après-midi de septembre, et les abeilles au dehors, et le monde éclatant, bariolé d'hiver. Cette voix proférante, son allant, et son emportement, son flux continu, la prégnance de ces rythmes commandés par le nombre, c'était la voix même du lyrisme, assimilée par le roman, débarrassée des complaisants épanchements narcissiques, l'émotion qu'elle engendrait alors. Je sentais bien qu'elle n'avait rien à voir avec l'agitation des sentiments, et parce qu'elle n'était en rien psychologique, qu'elle était pleinement esthétique. Le monde de ces romans était bien le monde du lyrisme. Les volets, là aussi, tirés entre elles et l'éclatante, l'orageuse lumière de l'été moribond, l'été qui allait peu à peu ainsi s'épuiser par degrés, d'orage en orage, comme si chacun emportait, lui enlevait un peu de sa substance. Cette épaisse et opaque matière, comme la pâte d'un pinceau trop chargé, dans laquelle il semble être coulé tout entier, c'est l'ancien lourd, la lourde et verte, senteur de foin coupé, d'herbes tièdes, de terre tiède, de fruits tièdes, mûrissant, pourrissant, les orages comme celui de l'avant-veille, d'abord aussitôt épongé, bu par la terre velue, la molle et grise poussière, puis peu à peu, attaquant l'été, le lavant, le détrempant, l'emportant, ni plus ni moins qu'une aquarelle se délayant, glissant, s'abîmant, parmi l'humide, brun et silencieux frottement des feuilles qui se détachent, tombent, ne laissent plus à la fin que le noir entre là, des branches nues et raides, s'entrechoquant, oscillant, avec la raideur, dans la virginale et métallique pluie d'hiver. Le monde du lyrisme, le monde sensible des éléments et de la chair des femmes, le monde des ciels, des feuillages, de l'herbe, de la pluie et de la boue, le monde effectivement éprouvé. Avec ses lumières, ses couleurs, ses odeurs, ses bruits, ses chevaux, ses oiseaux, le monde d'abord perçu, avant d'être interprété et compris, comme le crocodile d'histoire, selon cette exigence de vérité dans le rendu que Proust appelait le côté Dostoïevski de Madame de Sévigné. Et là aussi sans doute l'odeur d'herbe écrasée, froissée, aplatie, de sève verte, et quelque chose dessus grisâtre, terne, immobile, fait apparemment de carton ou de cuir bouilli, et se terminant à une extrémité comme une branche cassée, fendue, l'écorce rugueuse, fendue, ou une vieille godasse, aplatie, déformée, racornie, l'empeigne déclouée de la semelle, bâillant légèrement et tout aussi immobile, aussi inanimée qu'un rebut, une chaussure jetée, abandonnée dans les orties d'un terrain vague, l'ombre des tiges balancées, jouant dessus, un oiseau se posant, sautillant, repartant, et toujours la même terrifiante immobilité. Et même si je ne comprenais pas bien, si je ne cherchais pas toujours à le faire, comment était organisée cette foule de scènes des romans, je pensais qu'elle devait l'être selon ce même principe de vérité dans le rendu. Non pas selon le principe abstrait et intelligent du déroulement d'un récit qui impose conventionnellement que tout ce qui vient après dans la chronologie vienne après dans la narration, mais selon l'exigence de vérité qui consistait à faire partager au lecteur l'expérience temporelle à laquelle s'attachait l'écrivain. Le sentiment du temps, combien il devenait plus présent lorsque la mémoire du lecteur était sollicitée, comme elle peut l'être dans une œuvre musicale où les développements procèdent par thèmes et variations, par la reprise d'un motif descriptif d'une scène antérieure. Chuchotement au-dessus du silence dans l'odeur de plâtre effrité, de tristesse, de mort, quelques bêtes pourrissant, quelques rats coincés sous une lame de parquet se décomposant. À la fin d'histoire, justement, un passage de quelques pages mêlait ou montrait en surimpression les traces fragmentaires de plusieurs scènes appartenant à des strates temporelles distinctes qui surgissaient dans la mémoire du lecteur avec la même présence trouble que dans la conscience du narrateur, la même précision hallucinatoire et la même désinvolture quant à leur situation dans la durée. Je cite les années se confondant, s'intervertissant comme les cartes postales dans le tiroir de la commode. En lisant, je vais citer quelques petits passages de divers moments de ce passage de quelques pages. En lisant la robe couleur de pêche, dans les parties du bassin où l'eau reflétait les feuillages sombres des lauriers, sur sa jambe, les égratignures séchées avaient la forme d'un petit carré irrégulier. Ténébreuse, toujours assise dans le noir sur leur fauteuil de soie jonquille, se tenant là, chuchotant, rigide, avec leur nom wisigoth. Larmes dans ses yeux, j'ai dit, mais tu le sais, le sais-tu, le sais-tu, emplissant les coupes de ses yeux, etc. Je reconnaissais les divers fragments de phrases déjà lues et je me demandais, comme le narrateur, mais où était-ce, quand était-ce exactement? Parfois, l'image et la situation de la scène revenaient aussitôt avec la phrase, comme si elle se tenait toujours là, mystérieuse et géniarde, quelque part dans la vaste maison délabrée. Parfois non. Et je revenais en arrière, je cherchais le passage et je retrouvais, avec la phrase, la scène du musée romain avec Hélène, celle du lavage des photos avec Corinne, celle de la cueillette des cerises et de l'écorchure au mollet de Corinne, celle de la rupture avec Hélène, etc. Parfois j'abandonnais. Je ne cherchais pas, en me promettant d'y revenir plus tard, mais je savais que l'écrivain avait compté sur la vigilance de son lecteur, ou plutôt, qu'il la lui avait despotiquement imposée, afin qu'il éprouve, le lecteur, dans les allées et retours de ses lectures et relectures, que si l'expérience du temps et de la durée sont le domaine propre du roman, l'expérience de la réversibilité du temps en est le suprême accomplissement. Par les va-et-vient de la lecture, qui appelait page après page la mémoire des pages antérieures, et de la relecture, qui anticipait page après page la mémoire des pages ultérieures. Excusez-moi, j'ai fait une confusion, je relis, parce que sinon c'est inintelligible. Par les va-et-vient de la lecture appelant page après page la mémoire des pages antérieures, et de la relecture, qui anticipait page après page, la mémoire des pages à venir, ultérieures, j'éprouvais la nécessité de ces brouillages et de cette confusion des temps qui m'avaient tout d'abord égaré. Ils étaient le moyen le plus vraisemblable et le plus réaliste de représenter le mode d'existence des souvenirs dans la conscience ou la semi-conscience. Leur incohérence, leur discontinuité, leur désordre apparent s'estompaient dans la relecture attentive, comme les formes illisibles d'une anamorphose s'organisent en une figure identifiable lorsqu'on occupe la bonne place pour la regarder. Mais où était-elle cette image de l'anamorphose? Je ne sais plus. Ou comme la version du narrateur, qui n'était qu'une poussière de particules, des mots mis tant bien que mal bout à bout, faute d'avoir été préparé. La syntaxe et la mémoire pouvaient seules faire apparaître le sens, comme seules les associations suggérées à la mémoire du lecteur pouvaient révéler les liaisons temporelles organisées par l'écrivain. En sorte que la discontinuité apparente des fragments de souvenirs se fondait dans le flux continu de la durée créée par la lecture. Ainsi, et parce qu'il ne suivait pas le fil d'une intrigue, le roman pouvait se développer comme un entrelacs, finement ramifié, comme un tissu conjonctif aux fibres innombrables, la syntaxe même de sa phrase étant exactement appropriée par son ouverture, sa disponibilité à la nécessité de saisir toutes les possibilités de liaison et d'association qui se présentaient dans le mouvement de l'écriture. D'ailleurs, cette image de l'entrelacs, que je n'aimais guère parce qu'elle ne suggère qu'un réseau de lignes situées sur le même plan, ou à celle du tissu conjonctif qui faisait un peu trop science natte, je préférais l'image de la pâte pour évoquer l'effet produit par ces romans. La pâte qui a du volume, qui remplit son contenant, qui est épaisse comme le temps et non pas claire, comme le brouet des petits récits linéaires, la pâte bien liée par une main lente et qui est consistante et fluide, tout à la fois. Cette image de la pâte me paraissait d'autant plus adéquate qu'elle s'alliait à celle de la musique par ce trait commun de la liaison, du liant, c'est-à-dire du passage, de la transition. Comme celui de sa syntaxe, le mouvement du roman tenait à une modulation continue, à des glissements de scène à scène obtenus ou suscités par toutes sortes de liens analogiques, lexicaux, phonétiques, sensoriels ou visuels, qui rassemblaient les fragments de scène dans une masse tout à la fois compacte, souple et cohérente, comme dans cette troisième partie de La Route des Flandres, c'est un passage bien connu, où la surimpression des scènes du camp, de l'évasion et du coït avec Corinne 3 ans après la guerre, cette surimpression était opérée par ou grâce aux liaisons de leurs sensations communes ou d'une association de mots. Je lis 2 exemples. Tout à coup, tout fut complètement noir. Peut-être étais-je toujours couché là-bas dans l'herbe odorante du fossé, dans ce sillon de la terre, respirant, humant sa noire et âcre senteur d'humus, lapant son chose rose, mais non pas rose, rien que le noir dans les ténèbres. C'est des choses que je trouvais originales à l'époque. Aujourd'hui, je trouve ça un peu naïf. Mais enfin, j'avais lu quelque part que les naufragés, les ermites, se nourrissaient de racines. Là, c'est encore pire. Pour ce qui aujourd'hui me paraît comme une naïveté, j'avais lu quelque part que les naufragés, les ermites, se nourrissaient de racines, de glands, et à un moment, elle le prit d'abord entre ses lèvres, puis tout à coup, tout entier dans sa bouche, bon, par exemple. Alors, comme dans la seconde partie, également, l'évocation des chevaux sur le champ de course avec Réchac, heureusement, Dominique Marviard m'a rappelé hier que l'évocation des chevaux donc sur le champ de course avec Réchac en casaque rose passait à l'évocation des chevaux de la colonne avant l'embuscade avec Réchac en tête et puis revenait au champ de course et puis retournait au chemin de l'embuscade dans une suite descriptive tout entière animée par le mouvement des chevaux, par le mouvement de leurs ombres sur les haies, celle de l'hippodrome et celle du chemin creux, par le glissement de, je cite, le glissement des paisibles nuages cotonneux dans le ciel. Et je me disais que c'était rudement fort, ces longs enchaînements de séquences en mouvement qui rendaient caduque l'opposition scolaire de la description et de la narration bien plus fort que les clochers de Martinville. Ce que l'art romanesque des liaisons incorporait dans sa pâte, dans l'épaisseur de sa pâte, c'était aussi le monde de l'histoire privée et de l'histoire collective. L'un et l'autre, fondus dans ce mouvement, lui aussi continu, auquel seul pouvait s'appliquer le nom d'histoire, selon tel passage de l'herbe. Pour nous rappeler ce que nous n'aurions jamais dû oublier, c'est-à-dire que l'histoire n'est pas, comme voudraient le faire croire les manuels scolaires, une série discontinue de dates, de traités et de batailles spectaculaires et cliquetantes, mais au contraire sans limite, et non seulement dans le temps, mais aussi dans ses effets, sans distinction entre ses participants, la guerre elle-même n'étant plus seulement faite, c'est-à-dire endurée, soufferte, supportée par les hommes dans la forge de l'âge, mais encore et au même titre, par les enfants et les vieilles dames, comme elles, chapeautées, gantées, impavides, capables de se tenir assises comme si elles étaient en visite pendant 70 heures ou plus de wagons à bestiaux, d'arrêts en pleine campagne, de bombardements, de gares aux foules hurlantes et faisant preuve, les vieilles dames et même aussi les enfants, d'autant de tranquille courage ou inconscience, c'est la même chose, que les jeunes pharaons héroïques, désuets et absurdes Saint-Cyriens en casoar et gants blancs. L'exigence de vérité dans le rendu, le souci de représenter le monde effectivement éprouvé, imposait de placer sur le même plan, sans hiérarchie de valeur, toutes ces histoires familiales et personnelles que je pouvais supposer être pleinement autobiographiques, et ces histoires liées à la guerre que je supposais tout aussi pleinement autobiographiques. D'un côté, les vieilles tantes, les contrepétries de Lambert, les amours et les robes de Corinne, la mère aveugle et les cartes postales des 4 années de fiançailles, l'alambic d'entre le Charles, etc. Et puis d'un autre, une fusillade sur une voiture arrêtée dans une rue de Barcelone en 36, une embuscade dans un chemin creux en 40, en mai 40, un wagon à bestiaux rempli de prisonniers, la sensation de peur de l'évader regardant manœuvrer un char allemand, un tank allemand, derrière un rideau de feuillage, etc. À vrai dire, et c'est pour ça que, sauf exception, je n'indique pas trop la source de ces citations que je fais, des 3 romans de Simon, à vrai dire, exactement de la même manière que j'avais été tout d'abord perdu dans une forêt de Hill et de Hell, ou dans les chevauchements chronologiques, un moment venait où je ne savais plus auquel des 3 romans appartenait telle ou telle de ces scènes. Mais plutôt que d'y voir une simple défaillance de ma propre mémoire, de la mémoire du lecteur, je considérais que c'était un effet de l'œuvre elle-même, qui était œuvre précisément parce qu'elle liait, de livre en livre, les éléments d'une même matière, parce que, de livre en livre, elle travaillait une même pâte, faite des mêmes composants, en sorte que la discontinuité apparente des fragments de souvenirs propres à chaque roman se fondait maintenant, elle aussi, dans le flux continu de l'œuvre, de l'ensemble des romans. Et comme il y a une vue myope et une vue presbyte, il me semblait que les romans vous imposaient 2 modes distincts d'usage de la mémoire. Une mémoire myope, appropriée à la lecture de près pour chaque roman, et une mémoire presbyte, appropriée à la lecture de l'œuvre et seule susceptible de vous en faire éprouver l'unité, la cohérence, la continuité. Et puis, il y avait dans ces romans, et j'aimais, ce côté furibond par moments, sa joyeuse férocité qui se débondait avec une souveraine liberté de ton, une violence furieuse et implacable, mais drôle, qui tantôt s'acharnait sur quelques objets privilégiés d'exécration, les antiquaires ruffians, les assis, les ex-colons, les palinodies des politiques, les inégalités sociales et les mépris de classe, l'argent, la banque, l'armée, la religion, le progrès et le sens de l'histoire. Alors j'avais compté vous lire le passage qui concerne l'histoire que Dominique Viard vous a lu hier, nous y voilà l'histoire. Bon, alors l'histoire, cette joyeuse férocité pouvait aussi paraître conjuguée une aversion ou un effroi tout intime, comme on le voyait dans tant d'évocations de la vieillesse. Et l'autre, toujours là, vieux con sur fond de fille à poil, avec son col devenu lui aussi trop grand, bâillant d'au moins 2 centimètres, cylindre cartonneux et amidonné d'où sortait un de ses coups de tortue grisâtre, sillonné de croisillons, se tendant hors d'une carapace à l'intérieur de laquelle son corps ne serait plus qu'une flasque, un flasque amas de tendons et de peau fripée, maintenu debout par les vêtements. Ses yeux chassieux, n'arrêtant pas de m'espionner et me soupeser avec cette même fourberie craintive, méchante, comme si les yeux et la bouche parlaient pour ainsi dire parallèlement, ou comme si la bouche parlait séparée du visage, les lèvres sous la moustache dégoûtante de nicotine disant ou bien « Et les vieilles reines, semblables à ces sortes de crustacés de sombres homards bleu-noir vidés de leurs intérieurs et dont subsistaient seules les carapaces, les perruques grises, les visages jaunes, les corselets brodés, posaient un peu de guingois dans les fauteuils dorés avec cette imperceptible inclinaison qui distingue d'une carcasse morte ou un mur en ruine d'un organisme chair ou pierre vivante. » Vivant. Bien des années après ma première lecture de Simon, j'ai tenté de mettre en forme d'une manière un peu plus théorique, du moins un peu plus abstraite, ce que pouvait être l'art du roman, dont Claude Simon me paraissait être un magnifique exemple. Je vais parler donc un peu théorie. Alors qu'on n'en est plus depuis longtemps à confondre poésie et vers, à penser la poésie à partir du vers et le vers à partir du maître. D'où vient que le roman soit encore si souvent réduit au récit ? D'où vient que, dans la réflexion sur le roman, on ait à ce point privilégié le récit qu'on en a presque oublié la prose ? Or, on sait bien que le récit n'est pas la propriété de la prose et que le récit en vers est apparu avant la narration en prose. Mais on ne sait toujours pas bien que la prose du roman ne se confond pas avec le récit. On ne sait toujours pas très bien que la prose du roman, et pourtant, le temps passe, on ne sait toujours pas très bien que la prose du roman n'est pas toute la prose. La prose du roman n'est pas, bien sûr, Virginia Woolf le disait, celle qui est employée pour les besoins de la vie courante et qui répond aux lettres, règle les factures, écrit les articles, fait les discours, sert les hommes d'affaires, les boutiquiers, les hommes de loi, les soldats, les paysans. Bref, lorsqu'elle n'est pas employée pour ces besoins-là, quelle est donc cette prose du roman qui est l'essentiel du roman lorsqu'il ne se confond pas avec le récit ? Il est frappant de voir que la plupart des romanciers qui ont abordé cette question les fait en référence à la poésie. Flaubert d'abord, Flaubert le premier, qui pense avant la crise de vers, Mallarméenne, et confond nécessairement, lui, poésie et vers. Flaubert, la bonne prose pourtant doit être aussi précise que le vers et sonore comme lui. Une bonne phrase de prose doit être comme un bon vers, inchangeable, aussi rythmé, aussi sonore. Je viens de le répéter. Et enfin, la prose est née d'hier. Voilà ce qu'il faut se dire. Le verbe est la forme par excellence des littératures anciennes. Toutes les combinaisons prosodiques ont été faites, mais celle de la prose, peu s'en faut. Et Virginia Woolf, la prose peut assumer, ou même assume déjà, quelques-uns des rôles autrefois tenus par la poésie. Nathalie Sarraute, comme celui de la poésie, le langage du roman est un langage essentiel. Gracq, ce qui en réalité agace dans le roman les esprits fanatiques de précision, celui de Valérie par exemple, ce n'est pas ce qu'ils disent qu'il est et qu'il n'est pas, c'est le retard grandiose qui persiste par rapport à la poésie, plus finement disséqué dans l'élucidation de ses moyens. Tout compte dans un roman comme dans un poème. Flaubert le sait, quoique Valérie le juge bête, qui ne rature pas moins ni moins minutieusement que Mallarmé. Fin de citation de Gracq. Alors, sans verser exagérément dans la polémique, on peut juger que si le romancier a dû prendre le pli d'étalonner les qualités d'une prose, appelons-la comme ça, exigeante, sur quelques-unes des propriétés de la poésie, tout cela tient pour une large part au pouvoir d'intimidation du poète. Car il n'y a pas que Valérie pour prétendre que la poésie n'est que la littérature réduite à l'essentiel de son principe actif. Il y a une vieille conception hiérarchique des genres qui pèse son poids de préjugés. J'emploie ce mot de genre pour aller vite, il est évidemment inapproprié, la poésie n'est pas un genre. Tout se passe comme si, et tout continue de se passer comme si, pour le poète, l'exigence littéraire fut nécessairement de droit ou par essence, du côté de la poésie. Le gardien de la maison de lettres et du langage, c'est évidemment le poète, celui qui, je cite Saint John Perse, transmet le mouvement même de l'être et qui peut ainsi avoir à charge, je le cite encore, de relever le métaphysicien. Le romancier, lui, on l'a depuis si longtemps chargé de porter dans ses bas des boisseaux de faits, comme l'écrit Virginia Woolf, et des fardeaux de pantoufles, comme le dit M. Jourdain, qu'il semble le roman avoir constamment approuvé qu'il n'est pas un âne, que l'exigence littéraire n'est pas la propriété de la seule poésie et que la prose est aussi compliquée à produire que la poésie, là c'est Barthes. Alors, sous des modalités diverses, depuis Flaubert, chaque génération de romanciers, de ceux qui ne pensent pas, comme le fait Valérie, que le roman se réduise au récit, ni la prose au récit naturel des choses que nous avons vues et entendues. Chaque génération de romanciers doit se colter une nouvelle fois avec la compatissante condescendance du poète qui croit vraiment, lui, que la poésie est, je cite Yves Bonnefoy, une écriture plus intime, plus exigeante, le plus haut et le plus violent du courant. Qui croit vraiment que, je cite Jean-Michel Maupois, que la poésie constitue l'expérience la plus radicale qui soit du langage. Bien, l'un des premiers moyens qui s'offre au romancier pour sauver son domaine, vieux moyen, celui qui fait occuper le terrain de l'antagoniste, consiste à défendre la prose en refusant de tracer des frontières entre le roman et la poésie. C'est ce que dit Sarraute. En montrant que le roman est prêt, depuis Madame Bovary, à assumer les plus hautes exigences de la poésie. Ça, c'est Milan Kundera. Ou bien en jugeant avec Blanchot qu'on ne voit pas pour quelle raison l'extrême travail dont Mallarmé a donné le modèle ne serait accessible qu'aux poètes. Et pourtant, voici un poète qui écrit ceci. Tout ce qu'il y a en français d'invention, de force, de passion, d'éloquence, de rêve, de verve, de couleur, de musique spontanée, de sentiment des grands ensembles, tout ce qui répond le mieux, en un mot, à l'idée que depuis Homère, on se fait généralement de la poésie, chez nous, ne se trouve pas dans la poésie, mais dans la prose. Les grands poètes français, les grands créateurs, ne s'appellent pas Malherbe ou Boileau ou Voltaire, ni même Racine, Chénier, Baudelaire ou Mallarmé. Ils s'appellent Rabelais, Pascal, Bossuet, Saint-Simon, Chateaubriand, Balzac, Michelet. Je compare la prose française, continue ce poète, je compare la prose française à la fameuse vague de Hokusai, qui, après d'immenses et puissantes ondulations, vient enfin déferler contre la rive en un panache d'écume et de petits oiseaux. C'est Claudel qui écrit ça, sans qu'on comprenne bien hein, ce que viennent faire ces petits oiseaux. Là. Alors, il n'est tout de même pas impossible aux romanciers ou aux critiques d'établir le domaine propre de la prose du roman sans faire référence à la poésie, comme il n'est pas non plus impossible d'éviter de borner la prose du roman au récit. Alors, il n'y a pas la prose, mais des proses, ça c'est méchonique. C'est à une certaine prose que je m'attache, que j'ai proposé d'appeler la prose du continu. En termes d'esthétique, la prose du continu fait du roman un art du temps. Et fait du temps le domaine spécifique du roman. La prose du continu est l'œuvre contre le temps, avec le temps et dans le temps. Le roman, la prose du roman, fabrique des liaisons. C'est en quoi elle œuvre contre le temps. Elle lutte contre le morcellement et la désintégration, contre l'irréversibilité du temps. Elle fabrique du continu contre la discontinuité temporelle existentielle. Elle est du côté de la pulsion de vie, en lutte contre les déliaisons destructrices de la pulsion de mort. La prose du roman, elle fabrique du mouvement. C'est en quoi elle œuvre avec le temps. Elle a de l'allant, elle est orientée, elle va de l'avant, elle fait fond, elle s'appuie. Elle fait fond sur cette tension, ce dynamisme, cette énergie caractéristique de la pulsion, de ces scansions rythmiques de poussée et de détente. La prose du roman fabrique de l'épaisseur, c'est en quoi elle œuvre dans le temps. La prose du roman fabrique une expérience temporelle où la durée délinéarise le temps. La prose du roman est une traversée des sédiments temporels qu'elle dépose couche après couche et qu'elle fait communiquer par des liaisons, par les liaisons de sa composition et les liaisons de sa syntaxe, des liaisons auxquelles elle permet d'accéder dans le courant de la lecture la mémoire du lecteur. Parce qu'elle est une fabrique temporelle, la prose du continu fabrique du rythme. Et, pardon, ceci est un petit peu abstrait, mais je ne peux pas m'empêcher de le dire, même simplement pour que ce soit entendu. En considérant ce rythme dans la prose romanesque, non pas comme une métrique, mais comme une tension, l'articulation dynamique d'un élan et d'un posé, où se retrouve la scansion même de la pulsion. En considérant ainsi avec Méchonique que le rythme est une subjectivisation du temps que le langage retient du corps. On peut concevoir que la prose rencontre l'oralité, la voix. La voix est, comme le rythme, un médium entre corps et langage. Une voix jamais ouïe, j'emprunte cette expression à Julien Gracq, une voix jamais ouïe dont l'oralité ne se confond pas avec le parler et qui a les propriétés dynamiques et liantes de ces pulsions, justement appelées pulsions de vie, qui s'opposent aux pulsions destructrices des énergies libres. Celui qui n'est pas aprosique, il lit et il écrit avec, comme il lit et il écrit contre. Il lit, celui qui n'est pas aprosique, il lit et il écrit avec ses livres dont la phrase, dont les phrases ont de l'allure. Il lit et il écrit contre ceux qui se bornent à faire des phrases d'aprosique. Ce qu'on va chercher sur la table du libraire ou dans les rayons de sa bibliothèque, ce sont ces phrases motrices qui, par là même, éveillent en nous la passion pour la littérature, celles qui peuvent impulser le désir de lire ou celui d'écrire, l'un et l'autre parfois miraculeusement confondus. J'aimerais, pour terminer, m'attacher à l'une de ces phrases motrices telles qu'on en trouve à foison chez Simon. Cette phrase, justement, que j'ai citée tout au début de mon propos, qui est tirée d'histoire et que j'aurais repris par ses échos divers dans la suite d'histoire. Comme si elle se tenait toujours là, mystérieuse et géniarde, quelque part dans une la vaste maison délabrée, avec ses pièces maintenant à demi vides, où flottaient non plus les senteurs des eaux de toilette des vieilles dames en visite, mais cette violente odeur de moisi, de cave, ou plutôt de caveau, comme si quelques cadavres de quelques bêtes mortes, quelques rats coincés sous une lame de parquet, ou derrière une plainte, n'en finissait plus de pourrir, exhalant ces acres relents de plâtre effrité, de tristesse et de chair momifiée. Ce fragment forme un paragraphe dans le texte d'origine, il est dans la dépendance syntaxique du précédent, par rapport auquel il constitue une parenthèse. Il ne lui manque donc rien pour se tenir grammaticalement. Je dis que le moteur de la phrase est dans la syntaxe et non pas dans le récit. Autrement dit, les articulations syntaxiques, mais ça se voit quand on lit un roman, ça se voit ligne après ligne. Les articulations syntaxiques prévalent sur les articulations narratives. Ce sont elles, ces articulations syntaxiques, qui engendrent l'allant de la phrase, par l'effet de suspens qu'elles créent dans le développement des expansions, les parallélismes ou l'écartement des éléments appariés. Prévalent également sur la narration les effets d'oralité produits ici par les reprises de quelques, l'ajustement de cave en caveau et la reprise de leurs premières syllabes en cadavre, la ligne insistante des A qui court alors dans rat, lame, parquet, exhalant, jusqu'au A long de acre et de plâtre. Mais encore. Dans ce « comme si elle se tenait », l'ordre syntaxique qui propulse la phrase en avant fait fond, c'est-à-dire s'appuie sur la cadence des nombres de certains de ses membres, et comme rebondit sur eux pour s'élancer plus loin. Les nombres de ces membres de phrase tantôt sont fixés par les articulations de la syntaxe et par la ponctuation, tantôt, et c'est le plus intéressant, agissent dans l'ombre, à l'écart de ces mêmes divisions. C'est ici que le lecteur, bouche close et oreille attentive, l'œil écoute, le lecteur peut découvrir des rythmes que rien ne marque ostensiblement. Dans un cas, par exemple, il peut suivre les attaques syntaxiques et la ponctuation, il marquera ainsi les cadences, comme si elles se tenaient toujours là, mystérieuses et géniardes, quelque part dans la vaste maison délabrée, avec ses pièces maintenant à demi vides, où flottaient non plus les senteurs des eaux de toilette des vieilles dames en visite, mais cette violente odeur de moisi, de cave, ou plutôt de caveau, comme si quelque cadavre de quelque bête morte, quelque rat, coincé sous une lame de parquet ou derrière une plinthe, n'en finissait plus de pourrir, exhalant ses âcres relents de plâtre effrité, de tristesse et de chair momifiée. Ce que met en évidence, mais il faudrait un vrai bon lecteur, comme nous en avons entendu hier, ce que met en évidence une telle lecture, c'est un rapport de masse ou de volume entre les membres successifs de la phrase. Ce n'est donc pas la mesure, le chiffre en tant que tel qui compte, mais le rapport qu'il entretient avec les précédents ou les suivants. L'allure d'une telle phrase me semble caractérisée par l'appui et la relance que donnent les membres courts aux membres longs en leur permettant de rebondir. On peut penser à la cadence d'un élan et d'un posé. Arcis Thésis disait autrefois les théoriciens du rythme, du chant grégorien. Mais les rythmes de la langue française ont quelques nombres privilégiés qu'une longue littérature a peu à peu établis. Ces nombres viennent le plus souvent du poème, certes, mais la prose peut les assumer en les mêlant dans sa patte, en les enfouissant dans sa patte, où ils jouent dès lors un tout autre rôle. Je voudrais citer ici Jean Moureau, ce critique qui a montré dans ce grand livre sur le rythme et les sonorités dans les mémoires d'outre-tombe que cette présence du nombre dans la prose de Chateaubriand n'était en rien poétique, que ce nombre ne visait en rien à mimer ceux du vers, comme le ferait une prose esthétisante, une prose artiste, mais que ce rôle du nombre dans, et des sonorités dans la prose de Chateaubriand avait partie liée avec les volumes inscrits par et dans la syntaxe, et qu'il était par là pleinement prose et uniquement prose. Ainsi, le lecteur de Simon peut retrouver le nombre familier de 6 dans l'attaque de ce paragraphe. Il peut souhaiter l'isoler en adoptant la diction orale courante qui ne marque pas le e muet de elle devant consonne dans comme si elle se tenait. Ce faisant, il installe la clé d'une cadence. Je répète, l'œil écoute. Ce faisant, il installe la clé d'une cadence de membres courts et moins inégaux que dans la lecture précédente. Cadence qu'il va chercher à étendre à la suite de la phrase, comme si elle se tenait, toujours là, mystérieuse et géniarde. 6-3-6. Alors il peut scander ainsi le paragraphe en marquant des pauses plus ou moins longues selon les cas. Bon, je ne marque pas, je n'indique pas entre parenthèses ou par parenthèse la mesure de ses membres. Oui, c'est ça. Comme si elle se tenait, toujours là, mystérieuse et géniarde, quelque part, dans la vaste maison délabrée, avec ses pièces, maintenant à demi vides, où flottaient non plus les senteurs des eaux de toilette, des vieilles dames en visite, mais cette violente odeur de moisie, de cave, ou plutôt de caveau, comme si quelque cadavre, de quelque bête morte, quelque rat coincé, sous une lame de parquet, ou derrière une plinthe, n'en finissait plus de pourrir, exhalant ses âcres relents de plâtre effrité, de tristesse et de chair momifiée. On voit qu'une telle lecture atténue, sans les effacer entièrement, les effets de cadence des élans et des posés, mais qu'elle modifie radicalement le ton de la phrase, oblitère le ton de la profération solennelle de la lecture précédente, et par le raccourcissement des cadences et par la relative égalisation du volume de ses membres, tire la phrase du côté d'un staccato haletant et pathétique. C'est ainsi qu'on peut entendre la voix de la prose, la beauté de la voix de la prose. Cette œuvre que je découvrais en 1973 et que j'allais bientôt lire entièrement avant de me précipiter sur chaque nouvelle parution, sans pouvoir imaginer que ces plus belles choses étaient encore à venir, les géorgiques, l'acacia. Elle avait d'autant plus d'importance qu'elle était précisément en train de se faire. Je parle de mes intercesseurs privilégiés, quand celle de Proust était évidemment achevée depuis 50 ans déjà, et quand celle de Gracq s'éloignait du roman avant de l'abandonner tout à fait. Que l'œuvre de Simon fût exactement votre contemporaine conférait à sa présence une force agissante très particulière. Elle n'était pas seulement l'étalon qui permettait d'apprécier la qualité de vos propres exigences littéraires, ni seulement un aiguillon pour les approfondir ou un garant pour les soutenir. Elle justifiait et encourageait vos aspirations exactement comme si vous aviez avec elle participé à une entreprise commune. Elle nourrissait en vous le sentiment de la solidarité dans la poursuite de son accomplissement. Je me figurais en effet que l'histoire du roman dessinait non pas certes la courbe d'un progrès, mais celle d'une évolution irréversible qui périmait de moment en moment ses formes antérieures et à la pointe desquelles s'avançait un noyau d'inventeurs, puisque les inventions d'inconnus réclament des formes nouvelles. Ainsi, je me figurais, en lisant les rabats de couverture d'histoire, les éloges des journalistes littéraires du moment, que l'œuvre de Simon, si unanimement admirée pour sa beauté, allait contribuer à nettoyer une fois pour toutes toutes les tables des libraires des 1000 petits romans inutiles qui les encombrent saison après saison. Saison. Simon. Simon a 100 ans cet automne. Son œuvre continue de prouver que la beauté du roman ne consiste pas dans la représentation d'un monde qui existerait hors de lui, mais, selon une formule de Rilke, dans cette transmutation intégrale du monde en splendeur qu'accomplit l'œuvre elle-même. Je vous remercie.